Voilà, les premiers thèmes que nous abordons dans cette nuit de l'IA, eh bien, c'est la santé, tout simplement, parce que c'est vrai que la santé est en train d'être révolutionnée par l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence artificielle générative. Je vous présente nos invités dans un instant. Mais auparavant, la question à BFM IA, est-ce qu'on a choisi le bon thème, à ton avis, BFM IA ?
Aborder la santé et l'intelligence artificielle est crucial, car l'IA transforme radicalement ce domaine. Elle permet des diagnostics plus précis, personnalise les traitements et améliore l'efficacité des soins. En intégrant l'IA, on peut détecter plus rapidement des maladies graves et optimiser les ressources médicales. Ce thème est essentiel car il montre comment la technologie peut sauver des vies et améliorer la qualité des soins, rendant la santé plus accessible et plus efficace pour tous.
Voilà, c'est vraiment le thème star du moment. Et pour en parler, j'accueille tout de suite nos invités Jean-Emmanuel Bibeau et Éric Carrel. Jean-Emmanuel Bibeau, qui est médecin, cancérologue et chercheur spécialisé en IA. Bonsoir Jean-Emmanuel, merci d'être avec nous. Et Éric Carrel, bonsoir Éric.
Bonsoir.
Fondateur de WeThings, l'une des pépites de la santé connectée. Hein. La particularité de WeThings, c'est justement de fabriquer des petits objets qui monitorent notre santé au quotidien pour éviter des maladies graves tout en essayant de les prévenir. Avant de vous donner la parole, on va parler justement d'IA et de santé avec Nathan Cocampo, qui s'est rendu dans un cardioparc. Et vous allez le voir, sur le papier, l'idée est très simple, déléguer les tâches de base du cardiologue pour optimiser les consultations et ainsi soigner plus de patients avec comme bras armé, bien sûr, l'intelligence artificielle.
Questionnaire de santé, électrocardiogramme, test d'effort, échographie. Passé les portes du cardioparc, le patient est pris en charge par des infirmiers. Son dossier constitué, il finit par rencontrer le cardiologue en bout de chaîne. Un gain de temps énorme. Et selon Thibaut Sabatier, le directeur technologique, les cardioparcs vont encore gagner en efficacité dans les prochains mois grâce à l'intelligence artificielle.
La volonté, c'est qu'on puisse, à partir des données qui sont rentrées par les patients en amont de leur consultation, évaluer à partir des facteurs de risque le moment le plus pertinent pour prioriser leur rendez-vous. La deuxième partie, ça va être déterminer les examens les plus pertinents qu'on peut lui faire pour le prendre en charge. Et la dernière composante est synthétiser de l'information pour donner un condensé d'informations pertinents au cardiologue pour prendre les meilleures décisions possibles.
L'IA permet aussi d'alléger la charge mentale du médecin. Fadid Jamal, cardiologue et le fondateur de Cardioparc.
C'est un peu notre bras armé. In fine, c'est toujours le cardiologue et l'équipe qui vont décider de ce qu'on va faire. Mais s'il y a une aide à la décision, ça pourrait nous faire gagner énormément de temps et c'est là où l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important.
La start-up a levé 10 millions d'euros en début d'année pour continuer son développement dans les périphéries des villes, pour lutter aussi contre les déserts médicaux. 11 centres comme celui-ci ont déjà ouvert dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Voilà, reportage signé Nathan Cocampo, Jean-Emmanuel Bibeau. Voilà un usage tout simple, finalement, de la technologie au service de l'intelligence artificielle. J'imagine que vous, dans votre quotidien, vous en avez beaucoup comme ça, non ?
En cancérologie, on se sert pas mal de l'IA, et surtout pour le moment d'outils qui sont destinés aux professionnels de santé, donc aux médecins ou aux paramédicaux. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'on va avoir une évolution vers l'apparition de nouveaux outils qui sont un peu comme ce qui a été décrit dans le reportage, des outils qui sont non plus seulement à la disposition des médecins, mais directement à la disposition des patients, par exemple, pour faire du suivi avant la consultation, et puis, par exemple, pour mieux caractériser la consultation, et ensuite faire du suivi après la consultation, voire après les traitements. Et ce type d'IA-là va beaucoup changer par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui.
Vous êtes médecin cancérologue. Le cancer est c'est une maladie qu'on soigne de mieux en mieux, de plus en plus, mais malgré tout, elle est encore mortelle dans certains cas. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, grâce à tous ces outils qui arrivent, vont petit à petit rendre le cancer en fait une maladie, j'allais pas dire bénigne, mais en tout cas peut-être chronique, ou qui pourra se soigner plus facilement?
Alors l'IA ne le fera pas toute seule, elle sera une sorte de chef d'orchestre, si vous voulez, de chaque étape du parcours de soins du patient qui aurait un cancer. Et donc elle va permettre de mieux diagnostiquer plus rapidement, accélérer du coup la prise en charge. Donc quand on fait un traitement plus précoce, on a de meilleures chances de guérir. Et puis aussi d'automatiser les traitements, de les adapter aux patients, c'est ce qu'on appelle la personnalisation des soins. Et puis aussi de faire quelque chose qui est très important, c'est le suivi, comme je disais tout à l'heure. Après le traitement, on sait que le suivi avec des scanners tous les 3 mois, par exemple, c'est pas forcément très très pertinent, c'est pas suffisamment fin. Et donc, on va pouvoir déployer des IA qui permettent de suivre le patient au plus près de chez lui et de dépister, par exemple, une récidive beaucoup plus rapidement.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Là, ce que vous évoquez, c'est l'IA pure, en fait. Ce sont des algorithmes qui vont détecter, par exemple, sur des radios, des anomalies bien avant que l'œil humain puisse peut-être les détecter. Est-ce que l'IA générative est un sujet qui vous intéresse, vous, en tant que médecin ?
Alors effectivement, l'IA générative, pour moi, c'est ce qui va participer à ce qu'on appelle le patient-facing AI, c'est-à-dire l'IA qui est au service des patients. Typiquement, on vient de créer une startup qui s'appelle Jade, dont on est en train de faire la levée de fonds, et dont le but est précisément d'utiliser l'IA générative pour rendre un service aux patients à l'interface avec le médecin. C'est-à-dire que là, actuellement, par exemple, une consultation médicale, ça dure 8 minutes en moyenne. Je pense que c'est largement insuffisant. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour redonner de l'humain dans cette consultation-là, et donc, par exemple, faire des résumés automatiques de consultation, faire du reporting avant la consultation pour que le médecin il se concentre plus que sur le problème, mais il se concentre sur la solution qu'il peut apporter au problème exprimé par le patient.
On a la chance en France d'avoir beaucoup de start-up talentueuses dans le monde de l'IA. Est-ce que vous vous intéressez à ces start-up ? Est-ce que vous passez des accords, des partenariats avec elles ? Vous essayez d'aller plus loin ?
Alors le contexte est un peu difficile parce qu'il y a une réglementation assez forte en Europe, malgré ce qu'on peut lire de temps en temps.
Bien sûr.
Et le nœud de la guerre, c'est clairement de réfléchir à des modèles économiques qui permettent aux hôpitaux, aux cliniques, aux cabinets médicaux de s'équiper en solution d'IA, entre guillemets. Actuellement, ce qui se rapproche le plus, c'est les actes qui sont plutôt liés à la télésurveillance, mais l'acte n'est pas spécifiquement sur l'IA. Et donc, je pense qu'il y a un fort besoin de développer des actes de sécurité sociale de remboursement pour des actes basés sur l'IA.
Éric Carrel, alors j'imagine que les propos de Jean-Emmanuel Bibeau vous intéressent, parce que vous êtes au cœur du réacteur aussi, finalement. Vous êtes dans la santé depuis de très nombreuses années, vous êtes le fondateur de WeSings, qui est une vraie pépite française dans le monde de la santé connectée. Grâce à vos objets connectés, vous arrivez à monitorer et à prévenir des maladies de centaines de milliers, peut-être de millions de gens, je ne sais pas, mais vous avez des montres, vous avez des capteurs qu'on met sous les matelas, vous avez des pèse-personnes, vous avez commencé comme ça d'ailleurs, avec toujours cette intelligence artificielle. Finalement, on parle de cette IA, mais vous, c'est le fondement même de ce que vous faites depuis des années, non ?
Oui, alors effectivement, on fait de l'IA depuis plus de 10 ans, notamment pour construire nos algorithmes et donc construire nos scores. Par contre, ce qui est nouveau, effectivement, c'est cette IA générative et qu'on va pouvoir mettre face aux patients. Alors, par rapport à ce que disait Jean-Emmanuel, moi, je suis bien sûr complètement d'accord. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on est obligé maintenant d'avoir une santé qui va rejoindre le patient dans sa vie. Et le « dans sa vie » est super important parce que quand on est à l'hôpital, il y a quelqu'un qui nous dit de s'asseoir là, on s'assied là, de tendre le bras, on tend le bras. Quand on est chez soi, eh bien, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et donc, ce qui est très important, le point premier, c'est comment on va avoir de la donnée qui va arriver pendant très longtemps pour deux choses. Pour un, accompagner le patient, c'est-à-dire comment je peux éduquer le patient petit à petit. Et on voit que là, comme disait Jean-Emmanuel, les LLM génératifs elles sont très aidantes parce que notamment elles sont empathiques et donc les personnes passent beaucoup de temps à essayer de comprendre, etc. Et puis pour aller chercher le médecin quand c'est nécessaire, puisque si on veut faire de la prévention, si on veut éviter des réhospitalisations, que ce soit pour des cancers ou d'autres maladies, c'est important d'essayer de détecter au plus tôt. Et cette mesure continue, en fait, est une révolution dans le domaine de la santé par elle-même. Alors bien sûr, elle utilise l'IA, mais on n'a jamais eu dans l'histoire de la santé des mesures tous les jours qui viennent de la santé du patient. Soit vous faites un IRM, vous en avez un tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Vous allez au laboratoire d'analyse médicale, ça va être toutes les semaines.
La tension artérielle, c'est quand on le fait.
Voilà. Exactement. Alors que là, par des gestes très simples, dormir sur son lit, monter sur un pèse-personne, on a des mesures quotidiennes. Et ces mesures quotidiennes nous permettent une approche complètement nouvelle et finalement d'avoir une profondeur d'analyse qu'on n'a jamais eue.
Jean-Emmanuel Bibeau, j'imagine que pour vous, c'est hyper intéressant de pouvoir matcher toutes ces informations pour des diagnostics, pour des suivis de patients, en fait. Non,
en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a eu une très forte technicisation de la médecine depuis les années 90. D'ailleurs, les patients s'en plaignent régulièrement du fait que c'est devenu très technique et très peu humain. Et la façon, paradoxalement, de régler ce problème-là, c'est d'utiliser entre autres l'IA, pas que l'IA, mais entre autres l'IA, et d'avoir entre autres des mesures qui sont invisibles, c'est-à-dire des mesures qui ne demandent pas à l'utilisateur de faire un effort. Et donc si on a ces mesures-là avec des algorithmes derrière de prise en charge, on va pouvoir faire de la prévention, de la prédiction, et beaucoup de choses seraient intéressantes. Et donc évidemment, en cancérologie, c'est d'autant plus important pour prédire le risque de développer un cancer du poumon 5 ans à l'avance, ou ce genre de choses-là. Oui.
Quelles sont les constantes qu'on peut vérifier, Éric Carrel ? Donc aujourd'hui, évidemment, la fréquence cardiaque, c'est devenu, on va dire, le béaba, oui. Mais on va très très loin aujourd'hui dans les analyses
Alors peut-être
grâce aux algorithmes.
Focalisons juste par exemple sur le sommeil. Le sommeil, donc c'est un moment privilégié pour prendre des mesures, parce qu'on est dans un état qui est assez reproductible, particulier.
On passe au minimum un tiers de notre vie dans un lit.
Un tiers de notre vie dans un lit. Il y a l'heure de coucher, il y a l'heure de lever, il y a les cycles du sommeil, il y a le nombre de fois où on s'est levé. Déjà, ça c'est de l'information en soi-même. Mais au-delà de ça, on a bien sûr le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Dans le rythme cardiaque, on a la variabilité du rythme cardiaque qui nous donne une indication sur notre forme physique quelque part. Les états de stress, les états de fatigue, etc. Les maladies qui arrivent sont facilement détectables. Pendant le Covid, il y a des centres de sport qui regardaient le rythme cardiaque pendant la nuit pour accepter les utilisateurs dans les centres de sport parce que c'est un prédicteur de maladies qui sont en train d'arriver. Donc le rythme respiratoire, on a là-dessus construit des algorithmes pour détecter l'apnée. L'apnée du sommeil, c'est assez fou parce que on a montré scientifiquement qu'on est meilleur pour détecter l'apnée du sommeil que la polysomnographie, ce truc où on met des appareils là.
Qui est très intrusif.
Qui est très intrusif et qui ne dure qu'une nuit. Le principal problème, c'est qu'il ne dure qu'une nuit. Mais il y a plein d'apnées qui ne sont pas reproductibles toutes les nuits. Donc on a montré qu'on était meilleur. C'est qualifié médical. Maintenant, il faut réussir à le faire rentrer dans l'acceptation des médecins. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait.
Alors justement, vous appuyez peut-être où ça fait mal. Alors je pense que Jean-Emmanuel est acquis à la cause, mais vous sentez quand même toujours une réticence de la part des médecins.
Alors,
des médecins.
Bien sûr, j'ai été opéré du cœur il y a 10 ans. Je suis fortement reconnaissant à tout ce que l'humanité a construit à travers les médecins. C'est fantastique.
Non, mais bien évidemment, sentir la généralité.
Mais il y a un vrai problème, c'est que à la fois parce qu'ils sont saturés, parce qu'ils ont une formation qui est très push, quoi, on met dans la tête énormément de choses. Finalement, il y a assez peu d'accueil de la nouveauté dans une carrière de médecin. Alors bien sûr, il y a beaucoup de médecins qui font de la recherche, etc., qui sont très accueillants à la nouveauté, mais il y en a quand même beaucoup qui sont un peu réticents. Et donc, on a ce besoin aujourd'hui d'expliquer, de faire adhérer à cette nouvelle médecine, parce qu'elle va libérer. Elle va libérer beaucoup de temps, elle va favoriser le diagnostic, elle va aussi énormément aider le patient. Et à la fin, on est tous là pour le patient.
Jean-Emmanuel Bibeau, est-ce que justement vous êtes demandeur de toutes ces données de prévention qui pourraient arriver? Est-ce que vous sentez de la part de vos collègues parfois des écarts entre ceux qui sont plutôt conquis par tout ça et qui aimeraient bien y aller, et puis d'autres qui disent « attendez, on n'a pas assez de recul ». Voilà, l'apnée du sommeil, c'est le meilleur exemple finalement.
En fait, alors je suis peut-être pas forcément le meilleur placé, effectivement, parce qu'il y a forcément un petit biais par rapport à là où j'exerce, etc. Mais ce que j'observe au quotidien, c'est que les gens ont plutôt une appétence pour ce genre d'outils-là. Peut-être que c'est différent dans d'autres pratiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, actuellement, il n'y a pas de formation en faculté de médecine, en tout cas obligatoire pour tous, sur les outils d'IA, que ce soit sur leurs principes de base ou alors sur leur application. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener sur justement comment est-ce qu'on fait pour connaître comment ça fonctionne, pour avoir confiance derrière.
Donc vous êtes plutôt, vous, demandeur de sensibilisation à la technologie dans le monde de la médecine pour chaque spécialité, en fait.
Bah, c'est absolument évident qu'il y ait une sensibilisation qui doit être faite dans la phase socle, on va dire, des études médicales. Parce que les médecins qu'on commence à former maintenant, qui vont sortir dans 10 ans, vont être dans un monde où il y aura peut-être 90% d'outils IA, entre autres. Enfin, pas qu'une fois de plus, mais entre autres. Et s'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour les utiliser, ça risque d'être dangereux. Comme on a appris aux médecins à interpréter des études sur des nouveaux médicaments, il faut qu'on leur apprenne à connaître les bases de l'IA et à interpréter les études qui les valident.
Mais j'imagine que tout au long de la carrière d'un médecin, il y a des mises à jour qui sont faites, il y a des formations, enfin des... Voilà, parce que la technologie évolue, etc. Il n'y a pas des moments où justement on se dit, bah attendez, la révolution qui est là, c'est l'IA, il faut la prendre au sérieux. Alors, aujourd'hui, ça n'existe pas, ça.
Il y a la formation médicale continue, hein. Il y a des DU sur de l'IA, etc. Mais donc ça, c'est sur la base du volontariat. Et ce qui est important, c'est que tout le monde le fasse. Ouais.
Les statistiques ne sont pas très très bonnes sur la formation continue des médecins. Ouais. C'est-à-dire que probablement l'IA va amener les médecins à en suivre beaucoup plus. Et d'ailleurs, on va pouvoir, à travers l'IA, construire des programmes qui vont aider les médecins à apprendre. Mais aujourd'hui, les statistiques ne sont pas terribles.
L'assurance maladie, Éric Carrel, est-ce que vous sensibilisez, en fait, la Sécu à toutes ces innovations qui, j'imagine, à terme, vont leur faire faire des économies? Parce que ce que vous nous dites, si vous détectez une apnée du sommeil, si vous détectez des défaillances cardiaques, etc., vaut mieux le détecter en préventif que de se retrouver aux urgences un soir, en fait. Est-ce qu'il y a une écoute de la part de ces organismes?
Alors, franchement, il y a une écoute. Déjà, il y a une écoute des politiques, il y a une écoute des responsables. Le problème, c'est qu'on a construit une machine qui est une machine extrêmement complexe, bien sûr pour des bonnes raisons, hein, des raisons de protection, mais du coup, aller au-delà de cette machine devient difficile. Et puis, on est en contrainte financière. Donc, aujourd'hui, dire il faut apprendre, enfin, il faut avoir démontré avant de généraliser, ça fait qu'on n'arrive pas à apprendre, puisque en fait on a que des centaines de, on apprend sur des centaines de patients et c'est pas suffisant, et donc le truc se mord un peu la queue. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le ministère de la Santé a pris conscience de ça, l'Agence de l'innovation en santé essaye de travailler sur cette idée qu'il faut expérimenter à large échelle, commencer à rembourser, et puis si ça se vérifie, on va continuer à rembourser. Ça, les Allemands commencent à le faire, les Français commencent à le faire, les Américains le font déjà depuis pas mal de temps. C'est essentiel si on veut demain aller assez vite. Sinon, on va mettre 50 plus. Alors le problème de mettre 50 plus, on peut dire par rapport à l'humanité, c'est pas grave. Par rapport aux startups qui vivent en France, par contre, c'est très grave, oui, puisque elles seront forcément rattrapées par des entreprises américaines.
Ou elles meurent, à ce moment-là.
Ou elles mourront.
Parce qu'elles ne sont pas financées, parce qu'elles n'ont pas de business model, parce qu'il faut qu'il y ait un business model derrière tout ça. Jean-Emmanuel Bibeau, dernière question très rapidement. Qu'est-ce que vous voyez comme révolution impressionnante liée à l'IA dans votre domaine de la cancérologie? Qu'est-ce qui vous a bluffé ces derniers temps? Je sais pas, une démonstration, quelque chose.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Mais en quelques secondes.
En quelques secondes, on va dire la sélection d'un patient pour lui proposer le meilleur traitement possible, avec le moins de séquelles possible. On n'y est pas encore tout à fait, mais je pense que d'ici 5 ans, on va vraiment y être. Et ça va faire concrètement qu'il y a des patients qui vont plus besoin d'être opérés, par exemple. Donc en ayant moins de séquelles, ou alors plus besoin d'avoir un certain type de radiothérapie ou une certaine dose de chimiothérapie. Et donc, à mon avis, c'est vraiment sur cette partie-là que la cancérologie va être changée profondément par l'IA.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Emmanuel Bibeau. Rappelons que vous êtes médecin cancérologue et chercheur spécialisé en IA. Et merci Eric Carrel, fondateur de WeSings.